Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux que je connais. Je n'ai pas pu vous dire bonjour en direct, mais on pourra prendre du temps après. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis les pieds ici. Et puis bonjour à tous ces gens dont le visage ne me dit rien du tout. Désolé, mais en même temps, ça me fait super plaisir de voir autant de visages nouveaux. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne nous connaissent pas, on était régulièrement présents ici depuis des années et des années. Et on a décidé de prendre plus de temps par rapport à nos voisins, nos amis, nos connaissances, là où on habite, pour pouvoir partager l'évangile avec eux depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. On n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes qui nous accompagnent, mais ça fait quand même super plaisir de vous revoir. Ce matin, on m'a demandé de partager la parole de Dieu avec vous. Ça tombe bien. On se revendique comme le peuple de Dieu et que la parole soit au centre de nos attentions, de nos préoccupations est fondamentale. Et on vient encore de le rechanter. Et j'espère sincèrement que ce chant était aussi une prière de votre part pour se mettre devant Dieu et écouter ce qu'il a à nous enseigner ce matin. Ce texte, je ne l'ai pas choisi. On m'a dit, dimanche 4 février, tu viens, tu parles sur Jacques 3, 13, 18. Je dis ça parce que vous verrez. Mais du coup, c'est bien parce qu'on est obligé d'aborder des sujets qu'on n'aborderait pas forcément autrement. Alors, on va lire le texte. Il est projeté derrière vous. Lequel parmi vous est sage et intelligent ? Attendez, j'en ferai un sondage après. Vous restez calme. Lequel parmi vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Merci Jacques de nous avoir laissé cette superbe lettre, parce qu'elle nous enquiquine un petit peu. Mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'il a derrière la tête, ce Jacques. J'aimerais déjà qu'on s'intéresse à qui c'est ce Jacques, parce que quand on reçoit un courrier, c'est sympa quand même de savoir qui nous écrit. Si c'est le voisin ou si c'est la reine d'Angleterre, ça n'a pas tout à fait la même connotation. Les phrases vont être différentes, les idées vont être différentes. Jacques, c'est un des frangins de Jésus. Ah ouais, ça change déjà. Ce frangin de Jésus, il n'a pas toujours été très clean avec Jésus, parce qu'on voit dans les évangiles que tous ces frangins se sont moqués de Jésus, en particulier dans Jean 7, on voit qu'il le taquine, il dit « Ah, vas-y, si tu te prends pour je sais pas qui, là, faut que tu montes à Jérusalem pour la Pâque. Va faire des trucs sympas. » Et on voit que dans tous les évangiles, les frères de Jésus, en fait, ils n'avaient pas trop grand-chose à voir avec ce gars. Ils avaient même l'impression que c'était un petit peu le vilain petit canard. Pourtant, ce Jacques, c'est Paul qui nous raconte ça dans 1 Corinthiens 15. Il va rencontrer Jésus ressuscité. Vous imaginez le truc ? Il y a son frangin qui est là pour de vrai, il se moque de lui, ce gars devient illustre, il meurt, il ressuscite, et quelques mois, quelques semaines après, on ne sait pas, ce même frangin revient en disant « Tu te rappelles ce que tu faisais de moi ?» Et là, Jacques, ça va changer sa vie. Il a rencontré plus son frère, il a rencontré celui qui l'a réconcilié avec son Créateur. Et Jacques, il va devenir un des responsables de l'église de Jérusalem et il va s'installer là-bas. Jacques, c'est un pantouflard. Hein. Dans la Bible, on ne le voit pas voyager. Il est né dans la Palestine, il a grandi là-bas, il est à l'école là-bas, il a fait son boulot là-bas, il n'a jamais bougé. Donc il connaît très bien le cru, mais ça reste quelqu'un qui a une vision qui est assez locale des choses. À qui il écrit ? Eh bien, en fait, Jacques, il a dû vivre dans sa vie des moments un petit peu compliqués, parce que quand il a rencontré ce Jésus ressuscité, Il y en a d'autres. Donc si lui a été chamboulé dans le bon sens du terme, il y en a d'autres qui ont plutôt manifesté de la rébellion. Et à Jérusalem, un grand nombre de personnes décident de suivre Jésus. Mais il y en a qui ne sont pas du tout de la même manière, dans cette dynamique-là. En particulier, un certain Saul de Tarse, un intégriste religieux qui se décide de casser et de massacrer, au sens propre comme au sens figuré, tous ceux qui veulent se revendiquer comme des personnes qui veulent suivre Jésus. Et Jacques, qui à ce moment-là est dans cette petite église de Jérusalem, voit son église exploser. Et tous ces gens qui étaient réunis avec lui régulièrement, d'un seul coup sont disséminés à travers tout le bassin méditerranéen. Et Jacques, comme il a vraiment un cœur gros comme ça, il leur écrit une lettre en leur disant « Voilà, on ne se voit plus trop maintenant, c'est un peu la galère, mais j'ai des trucs à vous dire. » De où il l'écrit ? Ben de Jérusalem, hein. Il est là-bas, il habite là-bas, il écrit là-bas, il vit sa vie là-bas. Et donc on est environ une dizaine d'années après la résurrection de Jésus. Quand on lit Jacques, ça se lit vite, hein. Il faut 7 minutes pour lire toute l'épître de Jacques. Donc ça se lit super vite. Des fois on est un petit peu déconcerté parce que Jacques il passe un peu du coq à l'âne. En tout cas on a l'impression qu'il passe du coq à l'âne. C'est qu'en fait, Jacques, il n'a pas fait des études à Athènes. Il n'a pas la pensée grecque. Il n'a pas la thèse, l'antithèse, la synthèse. Il n'a pas le point 1, le point 2, le point 3, et après, on conclut. Lui, c'est un oriental, Jacques. Il tourne en rond. Il tourne, il voit une idée, et ensuite, il en parle avec une autre. Ensuite, il va sur une autre idée. Et c'est comme ça, en fait, qu'au milieu de sa lettre, il va nous parler de la sagesse. Et ce qui est bien là-dedans, c'est qu'en fait, on voit que c'est le cœur de Jacques qui parle. Jacques, il a, au cours de sa vie, vécu plein d'étapes différentes. Ce n'est pas un propre Jacques. Il ne peut pas venir avec des médailles en disant « Voilà, moi j'ai toujours une vie clean ». Il s'est moqué de Jésus, il n'a pas voulu suivre Jésus, il a fallu que Jésus lui apparaisse en tant que ressuscité. Il démarre une vie d'église, l'église explose, il va vivre la persécution, il va devoir subir les assauts de ce fameux Saul de Tarse. Et qu'est-ce qu'il va aussi voir avec ce Saul de Tarse ? C'est qu'un jour, il va le voir revenir, appeler Paul, et il va venir prêcher à l'église de Jérusalem. Et Jacques va dire, ce gars-là qui nous a fait du mal, maintenant je veux qu'on l'écoute. Donc il a vécu des trucs, Jacques. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de la théorie ce qu'il a à nous raconter. Et donc, quand on regarde son épître, le thème principal, il n'est pas très compliqué, c'est que pour Jacques, quand on dit qu'on est réconcilié avec Jésus et qu'on appartient au peuple de Dieu, il y a des implications au niveau communautaire d'une manière authentique. Tu ne peux pas te dire chrétien, tu ne peux pas te dire que tu fais partie du peuple de Dieu, tu ne peux pas dire que Jésus est au centre de ta vie si dans la relation des uns avec les autres, il n'y a pas des trucs qui changent fondamentalement. Si dans l'église, il se passe exactement la même chose qu'au boulot, dans ton club de foot, dans le club de pétanque ou avec tes voisins, alors ce n'est pas l'église. Alors ça veut dire que Jésus, il n'est pas au centre. Donc il faut qu'on ôte les étiquettes et qu'on dise à ce moment-là qu'on est le club lambda. Voilà, c'est ça que Jacques il a à nous dire ce matin. Alors on va regarder maintenant le texte ensemble. Et puis, comme pour les Thessaloniciens, je vais vous proposer de regarder ensemble. Et puis comme ça, vous pourrez me dire si je dis des bêtises ou pas. Le thème du jour, c'est la sagesse. Il y a 4 fois le mot « sage » qui apparaît en quelques versets. Dans un texte, quand il y a quelqu'un qui se répète, soit il ne sait pas trop quoi dire, soit il n'a pas beaucoup de mots, donc il dit toujours les mêmes mots, soit il veut vraiment attirer notre attention. Et je pense que Jacques est plutôt dans cette dynamique-là. Il veut attirer notre attention sur le thème de la sagesse. Vous allez me dire, c'est un peu fumeux quand même. Il y a quelques chapitres dans la lettre de Jacques, il y a probablement des choses vachement plus importantes que nous baratiner avec ce thème de la sagesse. Ben, peut-être que oui, peut-être que pas. Je ne sais pas, on va voir ensemble. Hein. Alors Jacques, il commence avec une question. Ben alors, ben, je vous la pose. Lequel parmi vous est sage et intelligent ? Donc, pour le oui, tapez 1. Pour le non, tapez 2. Donc, qui parmi vous est sage et intelligent ? OK. Donc, qui parmi vous ne se considère pas comme sage et intelligent ? D'accord ? Alors, il y en a plein qui n'ont pas répondu. Hein. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir. Alors, Lequel parmi vous est sage et intelligent? La question est très simple, hein. Il y a oui ou non, hein. Alors, on a un gros problème. J'aurais dû prendre une photo, en fait. Donc, lequel parmi vous est sage? Lequel parmi vous est intelligent? Et j'ai vu plein de mains se lever. On a un gros problème. On a un très très gros problème. Soit vous êtes hypocrite et vous n'avez pas osé dire que vous êtes sage, soit vous ne l'êtes pas. Et donc c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que dans la Bible, le thème de la sagesse est un thème qui est fondamental. Vous avez 308 versets dans la Bible qui parlent de la sagesse. 308. Il y a zéro verset qui nous parle du dimanche matin. Il y a zéro verset qui nous parle de comment les chaises sont organisées dans une église. Il y a zéro verset qui nous parle de l'heure de culte. Il y a très peu de versets qui nous parlent de comment on doit être habillé. Il y a très peu de versets qui nous parlent du travail qu'on doit faire. Tout ça, c'est tout des préoccupations hyper importantes dans nos têtes. Alors, excusez-moi de vous le dire, mais ce matin, c'est vraiment très problématique que la sagesse ne soit pas du tout une priorité pour nous et qu'en plus, on ne se considère pas comme sage. Le problème n'est pas avoir des problèmes, le problème, c'est de ne pas trouver des solutions aux problèmes et de ne pas les reconnaître. 40% des textes de la sagesse sont dans Proverbes. On l'a lu tout à l'heure. Chers frères et sœurs, qui ne vous considérez pas comme sages, je vous recommande de lire cette semaine les Proverbes. Alors peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, les Proverbes. On l'en a lu tout à l'heure. La sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Tout à l'heure, on a dit que il fallait le chercher comme l'argent. On l'a lu dans Proverbes chapitre 2. L'introduction des Proverbes, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous savez, Salomon, c'est ce roi qui, d'un seul coup, rencontre Dieu, qui lui dit « Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tu me donnes un truc, tu me demandes un truc et tu l'as. » Et Salomon, il va dire « Moi, je veux la sagesse. » Parce que je suis responsable d'un pays et j'ai besoin de la sagesse. Et Dieu va lui accorder une sagesse incommensurable qui va faire sa réputation au-delà des frontières. Salomon, il a écrit tout ce livre des Proverbes pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Ah tiens, il parle des jeunes aussi. Bon, les jeunes, vous avez vu? Le problème, c'est pas d'être jeune. Le problème, c'est de pas y rester. Il faut acquérir de l'expérience, de la connaissance et de la réflexion. En lisant les Proverbes, ça pourra vous aider. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, c'est qui a levé la main tout à l'heure? Non. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches. Qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et lui sera donné. On a déjà prié une fois, un coup, un matin, « Seigneur, donne-moi la sagesse. » Dieu ne va pas venir avec un gros gourdin en disant « Purée, t'es pas sage, tiens !» Non, il le fait sans reproche. Il sait très bien qu'on n'est pas sage, Dieu. Et il est là en disant « Moi, je suis la sagesse incarnée, donc je vais te donner tout ça, mais il faut que tu me le demandes. Et surtout, il faut que tu te considères comme quelqu'un qui a besoin encore d'apprendre et de progresser. » Pourquoi c'est fondamental que dans le peuple de Dieu, il y ait de la sagesse? C'est Éphésiens qui nous dit ça. « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dieu, on ne le voit pas. Dieu, c'est facile de dire plein de trucs sur lui parce qu'on ne le voit pas et qu'il n'est pas directement physiquement présent. Vous savez que c'est facile de parler du voisin ou du collègue de travail quand il n'est pas là. Il ne peut pas se défendre. Par contre, il y a quelqu'un qui doit révéler l'identité de Dieu et qui doit le démontrer dans le quotidien, c'est l'Église. nous, ce matin, réunis ici, devons, lorsque les gens nous regardent, dire « Waouh, Dieu est sage comme eux sont sages ». Donc, ce n'est pas n'importe quoi que d'être sage. Et ce matin, il y a peut-être des gens qui viennent ici pour la première fois, qui viennent ici avec des questions en se disant « Si les chrétiens, ils sont comme ça, alors moi, je ne crois pas en Dieu ». Excuse-moi de te dire dans ta réflexion que tu es un tout petit peu à côté de la plaque. C'est pas parce que les chrétiens sont comme ça que tu ne dois pas croire en Dieu. C'est que tu dois imaginer qu'en fait, à ce moment-là, ces chrétiens ne roulent pas pour Dieu, mais ils roulent pour eux-mêmes. Et en face de toi, tu n'as plus des vrais chrétiens, tu as des gens qui portent juste une étiquette. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas Jésus qui est au centre. Donc continue à chercher Dieu, parce que Dieu n'est pas comme ces personnes-là. Alors on suppose quand même que vous avez levé la main et que vous êtes sage. Parce que sinon, on s'arrête maintenant. Mais j'aimerais bien quand même qu'on aille un petit peu plus loin. Alors Jacques, il dit, ok, il y en a probablement parmi vous qui sont sages et intelligents, même la totalité. Mais, en fait, Jacques, il nous parle qu'il y a deux sagesses. Il nous parle dans ce texte d'une sagesse qui ne vient pas d'en haut et une sagesse qui vient d'en haut. Alors ça complique un tout petit peu la situation. Il y a les pas sages et il y a les sages. Et dans les sages, il y a ceux qui sont bien sages et il y a ceux qui sont mauvais sages. Et j'aimerais qu'on puisse voir c'est quoi la différence entre le bon sage et le mauvais sage. C'est pas la blague du bon et du mauvais chasseur. Hein. On va d'abord regarder la mauvaise sagesse. La sagesse qui vient pas d'en haut. Jacques, il tourne pas autour du pot. Une telle sagesse, elle est terrestre, elle est humaine, et il va même un cran plus loin, elle est démoniaque. Boum! Donc il y a bien une sagesse qui est purement humaine. Et cette sagesse, en fait, elle est sous l'emprise, sous la domination du prince de ce monde que la Bible appelle Satan. Et donc, que les démons puissent utiliser ou surfer sur cette mauvaise sagesse est tout à fait logique. Et Jacques le dit, cache comme ça, sans prendre de pincettes. Alors, c'est quoi cette mauvaise sagesse? Parce que du coup, on se dit, waouh, je suis dans quelle case? À deux reprises, il se répète décidément ce Jacques, à deux reprises, il nous parle d'une jalousie amère et d'un esprit de rivalité. La mauvaise sagesse, selon Jacques, mais selon la Bible, hein, parce que là, Jacques, c'est un bout de la Bible, à partir du moment où il y a de la jalousie, de l'amertume, où il y a de la rivalité, où on commence à vouloir bagarrer un petit peu pour pouvoir s'en sortir, alors là, ça craint. On n'est probablement pas dans la bonne sagesse. On manipule. On cherche à atteindre des objectifs. Et ce qu'on cherche consciemment ou inconsciemment, c'est toujours pareil. C'est ce que l'autre soit plus bas que nous et que nous, on soit un peu plus haut que les autres. Et ça, il nous dit quoi, Jacques? Ben, c'est un peu explosif. Quand on rentre dans le tas et qu'on cherche à s'en sortir et qu'on veut écraser les autres, ben, ça fait la bagarre. Désordre, toutes sortes de pratiques mauvaises, parti pris, hypocrisie. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Si quand je dis que je suis sage, mais qu'en fait je crée du conflit, que je crée des pratiques mauvaises, que en vrai je ne veux pas voir tous les arguments qui doivent être vus, ou que je commence à dire blanc d'un côté et noir de l'autre, alors je suis dans la mauvaise sagesse. Et par rapport à ce comportement, encore une fois, Jacques, il dit les choses très clairement. Ne faites pas les fiers. Honte à vous. Alors vous vous dites sage, mais en fait vous n'êtes pas du tout sage selon Dieu. Donc arrêtez de dire que vous êtes sage selon Dieu. Alors, s'il y avait la sagesse mauvaise d'en bas, il y a la sagesse autre. Et on se rend compte dans le texte que Jacques ne l'explique pas plus que ça, il nous parle de la sagesse d'en haut. Alors juste en regardant ce morceau de phrase, des fois on pourrait se demander, mais ça vient d'où? Du plafond, des nuages? Donc c'est important de voir qu'est-ce qu'il entend par le haut, et quand on regarde dans les autres passages de la Bible, quand on voit aussi la signification d'en haut dans la Bible, on sait bien qu'en fait, c'est une manière de parler de ce qui vient de Dieu, de ce qui vient de Jésus. Donc en gros, il y en a une mauvaise sagesse qui vient des hommes, qui est même démoniaque, et il y en a une bonne sagesse qui vient que d'une seule source, de Jésus. Et on l'a encore lu tout à l'heure en introduction, Proverbes chapitre 2, c'est Dieu qui donne la sagesse. On n'a pas d'autre solution pour être sage que de venir auprès de Jésus, dire « S'il te plaît, rends-moi sage ». Elle est motivée par quoi, cette bonne sagesse? Eh bien, elle est liée principalement à la paix. Alors, ce n'est pas forcément la paix des braves ou le monde des bisounours où on ne parle pas des problèmes. Jacques, il en a rencontré des problèmes. Il a dû faire face à certains conflits. Il s'est pris la tête avec Pierre, parce que Pierre, il avait un comportement des fois un petit peu ambigu à Jérusalem. Quand il était avec les Juifs, il faisait comme s'il était un bon Juif. Et puis après, il allait avec les Romains, puis il ripaillait avec les Romains. Alors que normalement, les Juifs n'avaient pas le droit de faire ça. Et quand il parlait avec les Juifs, il disait « Restez comme ça, vous êtes bien, il faut être Juif !» Puis quand il était avec les Romains, il disait « Ouais, vous vous rendez compte, les Juifs, ils ne vous accueillent même pas !» Alors Jacques, il est allé le voir, il a dit « Ego, Pierre, il faut qu'on discute !» Paul, il a dû négocier avec lui, vous imaginez? Paul, il a tué Étienne, un des copains à Jacques, en le lapidant. C'est un truc qui est monstrueux. Et après, Jacques laisse la parole à Paul en disant « Viens, viens, on va enseigner ensemble cette église de Jérusalem. » Vous croyez qu'ils n'ont pas dû régler leur compte avant de se demander pardon, d'échanger? Donc elle est porteuse de paix, mais d'une vraie paix, d'une paix de réconciliation. La paix qui est dans l'Évangile. Dieu nous apporte la réconciliation, il veut qu'on soit en relation avec lui et qu'on soit en relation les uns avec les autres. Elle apporte quoi du coup cette paix qui vient d'en haut? Déjà, elle est pure. Pure, sincère. C'est l'opposé de l'hypocrisie. La vraie sagesse ne cache pas les choses, elle les dit. Mais elle ne les dit pas dans un but de conflit, elle les dit dans un but de réconciliation et de paix. Elle est conciliante, elle est pleine de compassion. Si la personne en face de moi ne comprend pas ce que je dis, je ne lui rentre pas dans le teint en lui mettant une claque, ça ne fait jamais rentrer les choses quand on tape dessus, ou ça abîme. On a de la compassion. Comment est-ce que Dieu s'y est pris pour nous faire comprendre qu'on était perdu et qu'on avait besoin de réconciliation? Il nous a tapé dessus? Il est venu avec plein de compassion, plein d'amour. Il a tout mis sur la table. Elle va porter des bons fruits, cette sagesse. Parce qu'à partir du moment où dans les relations, la sagesse est au centre, alors derrière, forcément, ça va découler, ça va libérer la parole, ça va libérer les échanges. Il va y avoir une entente qui va être beaucoup plus intéressante et dynamique. Et qu'est-ce que nous dit Jacques par rapport à cette sagesse? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres, celui qui se dit sage comme cela. Il n'y a pas de honte à vouloir être sage, puisque Dieu le demande. Mais il faut que les sages qui sont présents dans le peuple de Dieu osent prendre la parole, osent se manifester, osent mettre cette sagesse au centre. Pourquoi? Parce que comme cette sagesse vient d'en haut, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, ce n'est pas du tout une manière de se faire valoir. Cette sagesse, elle ne peut nous venir que de Dieu lui-même. Donc en mettant cette sagesse au centre, en réalité, on met Dieu au centre. Alors qu'en cachant cette sagesse ou en mettant la sagesse purement humaine, en vrai, on se met au centre. On résume? Vous êtes sage ou vous n'êtes pas sage? Si vous êtes pas sage, il y a un gros problème. Relisez les proverbes. Si vous êtes sage, attention, il y a deux types de sagesse. La sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Et vous voyez, au niveau du résumé, qu'elles sont complètement antinomiques. Les origines sont à l'opposé, les motivations sont à l'opposé, les conséquences sont à l'opposé, et le verdict est à l'opposé. Ce matin, Jacques nous encourage à rechercher la sagesse, mais pas n'importe quelle sagesse, la sagesse qui vient d'en haut. On pourrait juste s'arrêter là, chanter un petit chant et rentrer à la maison. Le problème, c'est que Jacques, il dit un autre truc aussi ailleurs. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1,23. Il l'a dit bien au début de sa lettre pour qu'on soit sûr qu'on l'a bien lu avant qu'il nous balance des trucs comme ça. Ce matin, en écoutant ces paroles de Jacques, ça fait forcément écho à des choses dans vos vies. Je ne sais pas forcément à quel niveau, mais ça fait écho. Il y a deux choses. Soit ça fait écho, et ça fait écho, et ça fait écho, et après l'écho, il disparaît. Soit ça fait écho, et on se met au travail, comme dit Jacques, pour être heureux. Si ce matin, tu veux être heureux dans ta vie, il faut que la parole de Dieu, elle change ta vie. Si elle ne change pas ta vie, va écouter des autres choses. Va écouter de la chanson, va regarder la télé. Ça te fera du bien, et puis voilà. Mais si tu veux que ta vie, elle change, alors faut écouter la parole de Dieu et après se mettre au boulot. Alors je vous propose qu'on se mette au boulot dès maintenant. On va se mettre par deux ou par trois. On ne bouge pas les chaises, on se met les uns à côté des autres. Et puis on va réfléchir à où est-ce qu'on est. T'es pas sage ? Alors il faut vraiment que tu demandes pardon à Dieu parce que Dieu, il aimerait que tu sois sage. Et Jacques nous dit que si tu as besoin d'être sage, il faut que tu le demandes. Alors demande-le. Mais ne le demande pas tout seul. Demande-le avec ton voisin qui va pouvoir prier pour toi. Parce que Dieu, il donne avec compassion. Et dans tout ça, au final, excusez-moi, le héros, c'est Jésus. Parce que s'il n'y avait pas Jésus, tu ne pourrais pas être sage. Et c'est sur lui que tu dois compter. Ou alors ce matin, tu te considères comme sage. C'est très bien, mais Jacques nous a rappelé qu'il y avait deux solutions. Soit tu étais plutôt sage dans la sagesse d'en bas. Dans ce cas-là, il faut que tu demandes pardon à Dieu parce que sous prétexte de sagesse, en fait, tu as travaillé pour ta propre pomme. Dans ce cas-là, tu dois aussi demander pardon aux autres parce que peut-être qu'il y a une étiquette de sage sur toi, mais en vrai, tu travailles simplement pour arriver à tes fins. Et tu dois demander absolument à Dieu de changer. Et dans ta vie aussi, le héros à ce moment-là, ce sera Jésus. Ou alors, t'es plein de sagesse, et en plus, la sagesse, elle vient d'en haut. Alors dans ce cas-là, tu dois dire merci à Jésus, parce qu'on l'a dit ce matin, cette sagesse-là ne peut pas venir de toi. Elle vient de Jésus. Il faut aussi que tu demandes ce matin d'être cet exemple de démonstration de sagesse dans le peuple de Dieu. C'est pas évident, des fois, de prendre la parole et de dire « Mais là, voilà, moi, comment je vois les choses, très sincèrement. » Et puis, il faut que tu demandes à Dieu aussi d'être patient, le temps que les autres y changent. Parce que tu peux être sage aujourd'hui, et puis demain l'autre il t'a tellement gonflé que d'un seul coup, comme par hasard, tu deviens un peu sage d'en bas, tu vois. Et dans ce cas-là, il faut être patient comme Dieu a été patient avec nous, plein de compassion, accompagner les autres. Et encore une fois, dans ce cas-là, le héros, ce sera Jésus. Quoi qu'il arrive ce matin, Dieu te propose que dans ta vie, le héros, ce soit Jésus. Et enfin, l'étiquette qu'on a ne sera plus une étiquette, mais sera juste le reflet de la réalité. Vous imaginez une boîte de conserve où dedans c'est des épinards et dessus il y a marqué ravioli. Il y a des enfants qui vont faire la tête au repas de midi. C'est quand même mieux quand l'étiquette, elle dit ce qu'il y a dedans et que ça coïncide. Donc je vous propose qu'on prenne 10 minutes, un quart d'heure, par deux, par trois. On prie, je vous laisse la diapo. Et puis vous échangez, Et surtout, j'aimerais qu'on puisse aussi prendre des engagements pratiques les uns envers les autres. Pas forcément des choses que vous allez expliquer dans les détails, mais dire, ouais, moi, il y a une personne à qui je dois demander pardon cette semaine. Il y a cette situation-là qui doit être réglée. Ouais, ça m'a interpellé de lire les proverbes cette semaine, je veux m'y tenir, mais il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'envoies un texto tous les jours, là, parce que sinon, je n'y tiendrai pas. Et puis, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on reprend la suite. Et pendant que vous êtes ensemble en train de prier et de prier les uns pour les autres, je vais passer pour vous laisser le petit résumé. Vous le glissez dans la page de votre Bible de Jacques 3. Et puis du coup, après, ben, vous pourrez raconter Jacques 3 à plein d'autres personnes. Je vous propose de prier avant de continuer ce moment de culte ensemble. J'aimerais surtout demander à Dieu, qui a entendu ce que vous avez pu dire et changer, qu'il ne laisse pas ses prières, ses engagements, ses réflexions sans suite. Et Seigneur, je te demande que tu puisses vraiment bénir chacun d'entre nous, que ce qui a pu être dit en face de toi, en face des frères et sœurs, puisse vraiment porter des fruits, et que la sagesse puisse devenir quelque chose de fondamental et de visible dans cette Église. Et je te remets particulièrement cette semaine, afin qu'il puisse vraiment y avoir aussi de l'entraide les uns avec les autres dans ce qui a été partagé, et que vraiment ce soit toi le héros de nos vies et le héros de notre Église. Amen.